Radio Prague, les informations.
Bienvenue sur Radio Prague, les informations en titre. Cote de popularité en Berne pour le Premier ministre et son gouvernement. Recensement, le nombre de salariés à la retraite a augmenté de plus de 7%. Et selon l'OCDE, le coût d'un appel téléphonique en République tchèque est le plus élevé d'Europe. 79% des citoyens sont mécontents de l'action du gouvernement de Petr Nečas. Plus de 83% désapprouvent la composition du gouvernement, tandis que 65% des sondés jugent négative l'action du Premier ministre. C'est ce qui ressort de la publication d'un sondage réalisé par le Centre pour l'étude de l'opinion publique. Selon cette étude, près de 2/5 des sondés jugent négativement le programme du gouvernement. Plus des 3/4 d'entre eux critiquent sa communication publique. Selon les analystes, les sondés étaient composés en majorité de personnes ayant bénéficié d'études supérieures et d'un niveau de vie aisé et sont notamment des électeurs des partis de la coalition gouvernementale. La semaine de l'agitation ou de l'inquiétude étudiantine contre la réforme des universités continue. À la suite des grandes manifestations dans les rues de Brno, Prague ou Plzeň, la protestation a gagné la ville d'Ústí nad Labem. Devant la faculté de philosophie, les étudiants se sont montrés particulièrement créatifs. Ils ont organisé un happening appelé le chemin de croix de Josef Dobesch. Plus d'un demi-millier d'étudiants et d'enseignants ont participé à la manifestation qui a débuté par une représentation du mont du Golgotha sur lequel les étudiants ont joué la scène de la crucifixion du Christ sur la croix des réformes du ministre de l'Éducation. Le nombre de retraités en activité a augmenté de 11 000 personnes l'an dernier. Environ 157 000 personnes bénéficiant d'une retraite maintiennent une activité professionnelle, une hausse d'environ 7% par rapport à 2010. C'est ce qu'a signalé dans le cadre d'une conférence sur la vieillesse Dalibor Holý, membre de l'Institut tchèque de statistique. Selon les résultats du recensement décennal de 2011, la moitié des retraités en activité le sont à temps partiel. Ils représentent plus d'1% des 5 millions d'actifs du pays. Le bureau tchèque des télécommunications ne remplirait pas pleinement ses fonctions. La concurrence du marché tchèque de la téléphonie mobile et des services de communication est faible et ne fonctionne pas. En outre, les opérateurs de la téléphonie mobile engrangent des bénéfices au-dessus des standards européens. C'est ce qu'a annoncé dans une conférence de presse le directeur de l'Institut d'information, Petr Cibulka. En 2011, l'entreprise T-Mobile a enregistré des marges de plus de 45% du chiffre d'affaires total, un record en Europe. L'obtention de telles marges montre que la concurrence est faussée. Selon l'OCDE, le coût d'un appel en République tchèque sur le réseau de téléphonie mobile est le plus élevé d'Europe. Quelques mots de sport. En tennis, le tennisman Tomáš Berdych s'est incliné en quart de finale du tournoi de Dubaï face au Britannique Andy Murray en 2-7. Le match avait commencé difficilement pour le joueur tchèque qui n'a pas su s'imposer face au 4e mondial, entraîné depuis 2011 par l'ancien numéro 1 tchécoslovaque Ivan Lendl, devenu américain en 1992. C'est la première fois depuis 6 ans que le tchèque s'efface ainsi devant le Britannique. Météo pour finir, demain vendredi, le ciel sera dégagé sur l'ensemble du pays, à l'exception du nord de la Bohême où des averses sont attendues dans la journée. Les températures douces pour la saison varient entre 7 et 14 degrés pour les maximales. Nous fêterons demain les Agnieszka. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi. La suite du programme avec Guillaume Narguet.
Faits et événements en République tchèque. Dobrý den, bonjour à toutes et à tous, merci donc à Paul pour ce bulletin d'information et bienvenue à vous, chers auditeurs, à l'écoute en français de l'actualité tchèque sur Radio Prague. Au sommaire de cette actualité figurent tout d'abord les manifestations des étudiants, ils ont été nombreux et même très nombreux à l'échelle tchèque, plus de 10 000 mercredi à Prague et dans le reste du pays, à protester contre les réformes envisagées par le ministère de l'Éducation. Nous reviendrons plus en détail sur ces manifestations dans quelques instants. Place ensuite à deux entretiens avec deux femmes qui contribuent grandement à la richesse des relations franco-tchèques. Nous entendrons tout d'abord Lenka Frolikova, professeure de langue et de civilisation tchèque à l'université de Lorraine, alors que s'ouvre à Nancy la semaine des cultures d'Europe centrale. Et puis la seconde partie de notre programme sera réservée à l'ambassadrice de République tchèque en France, portrait donc de Marie Chatardova, une femme en diplomatie comme vous l'entendrez. Mais avant de développer tous ces titres, nous vous souhaitons une excellente écoute à toutes et à tous.
Merci.
Plus de 10 000 étudiants et académiciens ont manifesté à Prague et dans plusieurs autres grandes villes du pays mercredi pour protester contre le projet de réforme de l'enseignement supérieur envisagé par le ministère de l'Éducation. Mardi déjà, 6 000 personnes s'étaient rassemblées à Brno, en Moravie, pour exprimer leur mécontentement organisé dans le cadre de la Semaine de l'Inquiétude. Ces manifestations étudiantes sont parmi les plus importantes depuis celles à l'origine de la chute du régime communiste en 1989. Des réformes dangereuses pour l'autonomie des universités et des écoles supérieures, c'est le regard qu'étudiants et académiciens portent sur les projets du ministre Joseph Dobech. Le monde estudiantin redoute surtout une perte de certaines libertés académiques et l'instauration de frais de scolarité qui contribueraient à un endettement massif des étudiants. Pour exprimer cette inquiétude, une semaine, du même nom, Semaine de l'Inquiétude, qui aurait aussi pu être appelée Semaine de l'Agitation, a donc été mise sur pied par les protestataires. Étudiante en journalisme à la Faculté des Sciences Sociales de l'Université Charles à Prague, Hanna Niemeczkova fait partie de ces jeunes Tchèques soucieux des perspectives d'avenir de l'enseignement supérieur dans leur pays. Après avoir elle aussi manifesté mercredi, Hanna Niemeczkova a évoqué cette Semaine de l'Inquiétude et ses craintes au micro de Magdalena Rosinkova.
C'est un peu étrange parce que à l'école, on parle tout le temps dans les couloirs avec nos profs j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop engagés quand on parle normalement dans les cours. Mais maintenant, cette semaine, c'est vraiment différent parce qu'ils nous encouragent aussi de venir aux démonstrations et de protester. Donc, tout le monde est un peu excité, mais je pense que c'est pour le bien.
Donc vous avez participé à la grande manifestation qui a eu lieu mercredi. Quelle était l'ambiance ?
L'ambiance était vraiment... Enfin, elle était parfaite, je pense, parce que c'était vraiment beaucoup, beaucoup de monde. En Tchéquie, j'ai l'impression qu'on ne fait pas trop... qu'il n'y a pas trop de gens qui ont la volonté de venir... manifester pour quelque chose, mais maintenant il y avait vraiment 8 000 au moins, je pense, 8 000, 10 000 étudiants de toutes les universités pragoises, mais même des universités des villes différentes. Et l'ambiance était parfaite, je pense. Tout le monde était très motivé et en même temps il n'y avait pas de problèmes au niveau d'organisation où il n'y avait pas des gens qui faisaient le sabotage ou quelque chose comme ça.
Quelles sont en fait les principales objections de vous, les étudiants, à l'égard du ministre de l'Éducation et de ses réformes ?
Le fait le plus agaçant, c'est l'idée d'avoir des businessmen
dans l'administration de l'école.
Dans l'administration de l'école. C'est ce qui agace le plus... les étudiants et les professeurs aussi. Et puis c'est aussi le fait qu'ils n'ont pas consulté du tout en fait la réforme avec nous, avec les étudiants, avec les professeurs. Donc on se sent un peu écarté et en même temps c'est nous en fait, c'est sont nos écoles, c'est notre éducation, et donc pour nous c'est très important de savoir ce qui se passe.
Donc l'introduction des frais de scolarité ne vous gêne pas tellement ?
Je pense que les frais de scolarité ne nous gêneraient pas si on saurait bien ce qui va devenir avec cet argent en fait. On ne le sait pas et on a peur que cet argent va être utilisé pour quelque chose de différent, pas pour l'éducation, ou que cet argent va disparaître dans la machinerie de l'État.
Quelles sont les solutions que proposent les étudiants en général, vos amis ?
On veut surtout être invités autour de la table pour discuter la réforme. Et je parle toujours de nous, des étudiants, mais ce sont surtout les professeurs et le recteur des universités qui se sont écartés aussi et qui doivent savoir... comment ça va marcher, le financement, la réforme et tout ça, parce que c'est très vague et je pense que c'est très gênant pour les gens qui travaillent dans l'éducation.
Bien que les projets du ministre de l'Éducation bénéficient du soutien du gouvernement et que beaucoup, y compris dans les universités, s'accordent sur le fait qu'une réforme est nécessaire, les protestations des étudiants ont déjà porté leurs premiers fruits. Ainsi, lundi, Joseph Daubèche a annoncé qu'il pourrait renoncer à l'instauration des frais de scolarité. Ceux-ci seraient alors remplacés par des frais pour des études prolongées ou simultanées dans plusieurs écoles. Le montant de ces frais s'élèverait alors à un peu plus de 1 000 euros par an contre 100 euros actuellement. Mais surtout, mercredi, en réaction au vaste mouvement de protestation qu'il a qualifié, je cite, de « normal » dans un pays libre, le Premier ministre a annoncé que le gouvernement allait continuer à débattre des réformes avec les recteurs et les représentants des étudiants. Soucieux que toutes les parties concernées trouvent un terrain d'entente, Petro Nečas a affirmé que son objectif était de parvenir, je cite, « à des changements positifs dans l'enseignement supérieur ». Une volonté de dialogue qui ne fait toutefois pas oublier l'essentiel, s'accorder précisément sur la nature de ces changements. Depuis une dizaine d'années, l'université de Nancy 2, intégrée depuis janvier dernier à l'université de Lorraine, organise la Semaine des cultures d'Europe centrale. L'édition 2012 de ce festival, qui s'ouvre ce jeudi, se tient jusqu'au 9 mars prochain au campus Lettres et Sciences humaines, mise en place par les étudiants et professeurs de tchèque et de polonais. La Semaine des cultures d'Europe centrale propose des conférences, débats, projections de films et concerts gratuits au public universitaire et nancéen. Magdalena Rozinkova s'est entretenue avec Lenka Frolikova, professeure de langue et de civilisation tchèque à l'université de Lorraine. Lenka Frolikova nous en dit plus sur ces événements en commençant donc par l'exposition de peinture de Jindřich Bílek, une exposition intitulée « Les couleurs de la musique ».
Cette exposition va durer pas seulement pendant la Semaine des cultures d'Europe centrale, mais jusqu'au 31 mars 2012. Jindřich Bílek, peintre tchèque contemporain, il est non seulement créateur de tableaux, mais aussi professeur de violoncelle au Conservatoire régional de Klatovie. Et pendant le vernissage, il va donner aussi un concert où il va jouer avec une étudiante du département de musicologie et du conservatoire régional de Nancy qui s'appelle Madeleine Francard. Donc le vernissage, ce n'est pas seulement le vernissage de l'exposition, mais c'est aussi ce concert pour deux violoncelles.
La Semaine des cultures d'Europe centrale a aussi un volet économique puisque vous organisez une conférence consacrée aux relations économiques tchéco-françaises et leurs perspectives.
Effectivement, et c'est une nouveauté de cette année parce que nous essayons de changer un tout petit peu le programme de la Semaine des cultures d'Europe centrale chaque année. Et cette année, nous avons voulu donner aussi un rôle aux conférences économiques. Et donc, mes collègues polonisants organisent une conférence sur les perspectives de travail au sein de la télécommunication polonaise pour les étudiants français. Et nous, du côté tchèque, nous organisons la conférence qui est intitulée « Les relations économiques tchéco-françaises et leurs perspectives ». Cette conférence est donnée par Madame Jana Šmídová, qui est directrice de Czech Trade, c'est-à-dire de l'agence tchèque de promotion du commerce extérieur en France.
Et en clôture de cette semaine des cultures d'Europe centrale, vous organisez une soirée littéraire assez intéressante qui a pour thème les cours de français en Tchécoslovaquie de 1960 jusqu'à la révolution de velours. Cette soirée concernera non seulement la politique, la culture, mais aussi l'humour dans l'enseignement donc, de français. De quelle manière vous allez présenter l'enseignement de français en Tchécoslovaquie à l'époque ?
Je vais commencer peut-être par un fait. La semaine culturelle est organisée par les étudiants de langue tchèque, de civilisation tchèque, par les étudiants de l'association Amis de la culture polonaise, mais nous collaborons aussi étroitement avec l'association Franco-Tchéquie. Et M. Michel Lhomme, qui est le protagoniste de cette soirée littéraire, il est en même temps président de cette association. Il est président de l'association, mais c'est un acteur, c'est, moi je dirais, peut-être même un clown. Et il parle très bien le tchèque et le français. Et c'est lui qui nous a proposé cette soirée littéraire où il va parler des manuels français pour les Tchèques. Voilà pourquoi les cours de français en Tchécoslovaquie. Et il va parler justement de la période de 1960 jusqu'à la révolution de Velours où dans les manuels de français pour les Tchèques, on a parlé beaucoup des camarades, des coopératives, c'est-à-dire de tout ce qui a été lié à la politique tchécoslovaque de cette époque. Et je voudrais aussi ajouter qu'à la fin de la soirée, nous allons inviter le public à une autre soirée littéraire qui cette fois sera purement littéraire parce qu'ici à l'Université de Lorraine, j'organise un atelier de traduction et cette année, nous avons traduit du tchèque en français une nouvelle de Ivan Klima qui s'appelle « Juditine Rozhovory », les entretiens de Judita et deux étudiantes de cet atelier de traduction qui ont traduit justement Ivan Klima vont présenter leur traduction. Ce sont Marie-France Louis et Bénédicte Trousson.
Voilà, c'était donc Lenka Frolikova, professeure de langue et de civilisation tchèque à l'Université de Lorraine. Lenka Frolikova répondait aux questions de Magdalena Rosinkova à l'occasion de la Semaine des cultures d'Europe centrale qui, rappelons-le, se tient depuis ce jeudi, et jusqu'au 9 mars à Nancy. C'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Merci également de rester en notre compagnie pour la suite de notre programme. Comme tous les 15 jours, place maintenant au Tchèque célèbre et moins célèbre, une rubrique dans laquelle on retrouve cette semaine Marie Chatardova, qui est ambassadeur de République tchèque en France depuis 2010. Parcours sans faute pour cette femme originaire de Moravie qui s'est retrouvée dans la diplomatie un peu par hasard, comme elle le remarque, mais qui a gravi les échelons à partir des années 1990 à une époque où, après la chute du communisme, le monde et l'histoire semblaient à portée de main. Mariée à un Français, elle a 3 enfants, tous bilingues. Alors comment gérer une vie de famille épanouie sans renoncer à sa carrière? Comment gérer sa carrière sans délaisser ses proches? Quel regard porte-t-elle sur la place des femmes à des hauts postes décisionnels? Le système tchèque permet-il aux femmes de mener de front vie de famille et avancement professionnel? Autant de questions qu'Anna Kubišta a abordées dans un long entretien dont nous vous proposons la première partie aujourd'hui. Marie Chatardova a commencé par revenir sur son parcours.
Les Tchèques célèbres et moins célèbres.
Je suis morave d'origine. J'ai obtenu mon doctorat de droit à l'université de Brno. Je suis venue ensuite m'installer à Prague, c'était en 1985. Avant 1989, mon refus d'adhérer au Parti communiste m'a empêché d'avoir un début de carrière rapide. Mais après 1989, je suis devenue juriste commerciale. Et puis en 1994, j'ai passé un concours pour entrer au ministère des Affaires étrangères. Et à vrai dire, j'avais vraiment envie de faire quelque chose pour participer à la reconstruction de mon pays, dont j'étais fière. Et quelqu'un m'a parlé de ce concours. Et de nouveau, par un concours interne, je suis partie à notre mission auprès de l'Union européenne à Bruxelles entre 1995 et 1999.
Comme on dit en Belgique.
Voilà. Où je me suis surtout occupée de la justice et des coopérations policières. C'était passionnant. Et d'ailleurs, tous ceux qui ont connu cette période s'en souviennent. C'est rare dans une vie d'avoir l'impression de vraiment construire l'histoire. Ensuite, je suis revenue à Prague où je me suis occupée de l'information de la population sur l'Union européenne. Après, j'ai été nommée ambassadrice en Suède de 2002 jusqu'à 2007. De nouveau Prague comme chef de protocole et à partir de l'été 2010, ambassadrice en France et aussi à Monaco. Et je couvre la francophonie.
Est-ce donc le métier que vous souhaitiez faire petite ou alors est-ce que vous aviez d'autres envies comme souvent les enfants, les garçons veulent être pompiers
Je pense que j'ai voulu devenir institutrice en étant petite, mais c'est vrai que j'ai jamais rêvé de devenir diplomate, puisque en faisant mes études dans le régime communiste, en passant quand même une assez grande partie de ma vie dans le régime communiste, ça n'a pas pu être mon rêve, parce que servir comme diplomate pour le régime totalitaire, c'était absolument exclu pour moi. Ça est venu après la révolution, comme j'ai dit déjà, un peu par hasard, parce que quelqu'un m'a parlé de ce concours au ministère, et j'ai vraiment voulu faire quelque chose pour la reconstruction de mon pays.
Alors, vous êtes née en Moravie, dans une très jolie ville à la frontière avec l'Autriche, qui s'appelle Znojmo. Quels souvenirs un petit peu avez-vous de votre enfance? Et puisque justement, votre travail vous permet, vous donne quand même l'occasion d'y retourner un petit peu, ou est-ce que c'est un endroit privilégié où vous allez vous ressourcer, ou finalement vous avez d'autres endroits en République tchèque où vous aimez aller?
Mes souvenirs d'enfance sont un peu décalés par rapport au monde d'aujourd'hui. Le régime précédent a isolé le pays du reste de l'Europe, ou au moins de l'Europe occidentale. Et les évolutions étaient limitées dans les modes de vie, d'une certaine façon, dans le petit village près de Znojmo, d'où vient la famille de ma mère, on conservait des traditions vraiment anciennes. Alors, de ce point de vue, mon enfance ressemble à certaines scènes de films de Bergman, avec l'horloge qui marque le temps de façon bien régulière, une tante ou une grand-mère qui console, qui sourit, le bois qui est mis très tôt dans la cuisinière, quantité de chants traditionnels. Et puis, il y a aussi l'extérieur, avec mes parents qui m'entraînent au fond de la maison à Znojmo et qui me dissimulent dans un lit tandis que les chars du pacte de Varsovie passent dans la rue. Il y a des tirs sur la façade, c'est août 1968 et moi j'ai 5 ans. Et mes parents ont déménagé à Brno quand j'avais 9 ans. Et quand je suis en République tchèque, j'aime me déplacer, visiter le pays. C'est un très beau pays, très varié, avec la montagne, des lacs, des forêts, de belles plaines. Et puis la prospérité fait plaisir à voir, la plupart des maisons sont refaites. Et c'est très facile de se ressourcer en République tchèque. Et il y a beaucoup d'endroits dans mon pays que j'aime. Et évidemment, comme j'habite à Prague, j'aime Prague.
Les femmes sont encore assez souvent sous-représentées au poste haut placé, qu'il s'agisse du monde des affaires ou d'autres secteurs. On a souvent des statistiques qui sortent en France, en République tchèque, qui le prouvent. Mais bon, les temps évoluent hein, quand même, ça a quand même beaucoup changé. Est-ce que vous-même, vous avez connu des difficultés à vous imposer en tant que femme dans un monde diplomatique qu'on dit quand même encore très souvent être une chaise gardée masculine?
Évidemment, ce n'est pas toujours facile de s'imposer pour les femmes, mais chaque fois que je ne parviens pas à faire quelque chose, j'essaie de me convaincre que c'est parce que je n'étais pas la meilleure et je considère qu'il n'y a pas de discrimination, ou j'essaie en tout cas de ne pas l'admettre. Je m'efforce alors de faire mieux encore. Le fait qu'il n'y a pas tellement de femmes ambassadeurs, et d'ailleurs c'est le cas dans tous les pays européens, c'est que c'est très difficile de lier la carrière avec la vie de famille. Les femmes suivent plus facilement leur mari que les hommes leur épouse. Mais il est sûr que la diplomatie n'est pas une chasse gardée pour les hommes. Lorsque vous gérez une ambassade, le fait d'être une femme ou un homme n'a aucun impact, puisque vous êtes jugé sur le résultat.
Est-ce que vous avez l'impression, justement, comme parfois certaines femmes le font remarquer, de devoir en faire plus, justement, pour que les hommes, un peu plus que les hommes, pour être plus prises au sérieux, ou est-ce que c'est un phénomène qui tend à s'estomper?
Moi, je pense que lorsqu'on travaille sérieusement, je ne sais pas ce que ça veut dire d'en faire plus.
Alors, vous avez été en mission diplomatique en Suède, où justement, on estime que la parité homme-femme est bien plus respectée qu'en France ou même en République tchèque. Est-ce que c'est justement votre expérience personnelle du pays?
La question de la parité homme-femme, c'est une question complexe, surtout si on l'aborde avec des comparaisons entre pays. C'est un objectif qui doit être atteint, mais les moyens de l'obtenir dépendent vraiment des situations de départ. Regardez le droit de vote des femmes en Suède, il a définitivement acquis en 1919. En France, c'est en 1944. Chez nous, après l'indépendance, en 1918. Et au-delà des statistiques générales, il y a que des cas particuliers lorsqu'on essaie de transposer des méthodes d'action. Il y a une règle, c'est que les systèmes échangent plus facilement leurs défauts que leurs qualités, ce qui ne veut pas dire qu'on ne s'inspire pas d'ailleurs.
Et retrouvez la deuxième partie de cet entretien avec Marie Chatardová, ambassadeur actuellement de République tchèque en France, dans la prochaine rubrique consacrée au portrait de Tchèque. Ce sera dans 2 semaines. Marie Chatardová évoquera également sa mission diplomatique et les relations bilatérales franco-tchèques dans Panorama mardi prochain. Et c'est ainsi que s'achève le bloc actualité préparé et présenté aujourd'hui par la rédaction française de Radio Prague. Merci encore de votre attention, merci également de votre fidélité et à très bientôt, de nouveau à l'écoute. Ahoy.